réfléchir ensemble sur certainement un des livres qui est le moins lu et qui est moins médité par les chrétiens, parce qu'il est extrêmement opaque. On va réfléchir pendant quelques semaines sur le livre du Lévitique. Donc, ben, hésiter sur les thèmes, c'est le choix entre deux études, mais je trouvais que c'était plutôt une bonne chose, eh bien, d'éclairer finalement quelques des livres que nous, les chrétiens, on n'a pas forcément l'habitude, eh bien, de lire ou dont on n'arrive pas, eh bien, à saisir, eh bien, toute la grâce. On croit que toute la parole de Dieu est inspirée et qu'elle est utile. Et de la même manière, nous croyons que le livre du Lévitique est utile, eh bien, à notre foi. Donc, très modestement, très humblement, parce que c'est un livre qui est assez compliqué, eh bien, on va essayer d'en trouver quelques clés de manière à mieux le comprendre et surtout à trouver des applications concrètes pour notre vie, pour notre foi. On va lire simplement le verset premier du chapitre premier. Livre du Lévitique, chapitre premier, verset premier. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Il lui parla et dit, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. Amen. Pourquoi ce verset? Tout simplement parce qu'il éclaire le sens étymologique du mot Lévitique. Lévitique vient d'un mot hébreu qui signifie il appela. Il appela. Et ici, on voit que l'Éternel va appeler Moïse pour, eh bien, lui donner les premiers mots et de la révélation. Ce nom définit bien le caractère, eh bien, de tout ce livre, car nulle part ailleurs Dieu va parler autant de fois à son peuple de manière directe que dans le livre du Lévitique. On va s'apercevoir que, eh bien, à maintes reprises, eh bien, Dieu va appeler Moïse, Dieu va appeler Aaron, et puis il va leur donner les ordonnances qui ont vocation, eh bien, à l'adorer, à le servir et à conduire le peuple dans la sainteté. Il va appeler Moïse afin de l'exhorter à se sanctifier pour permettre que le peuple, eh bien, s'approche de Dieu. Et puis, petit à petit, eh bien, ce terme de mot lévitique va évoluer, et les premiers à le faire évoluer, ce sont les traducteurs de la Septante, la version grecque de la Bible, hein, qui vont l'appeler lévitique, de par le fait qu'il est adressé en priorité à la tribu de Lévi, qui était destinée, eh bien, au sacrifice. D'où le nom, eh bien, du terme lévitique. Quel est le but du livre? Il est très simple. Le but du lévitique est de nous éclairer sur la sainteté de Dieu et d'éclairer le peuple sur la manière d'y accéder. Rien de plus, rien de moins. Dieu est un Dieu saint, il le demeure. On va le souligner à plusieurs reprises durant cette étude. Et nous sommes des hommes pécheurs, nous sommes des hommes, eh bien, incapables de satisfaire la sainteté de Dieu. Mais déjà, sous l'ancienne alliance, eh bien, Dieu voulait que son peuple s'approche de lui. Hein? On le sait, le tabernacle était au centre du campement. Hein? Il était entouré par la tribu de Lévi. Et ensuite, toutes les tribus étaient autour, de manière à ce que, eh bien, le temple de la révélation, le lieu de la révélation, soit au centre de la vie et du quotidien du peuple. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on sait que le Lévitique est le troisième livre du Pentateuque et qu'il suit le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre où il nous est décrit la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Hein. Le peuple d'Israël était en Égypte, était sous l'esclavage, hein, d'un pharaon mauvais qui les a vilissés, et puis Dieu va faire lever Moïse à Aaron, et puis il va susciter les plaies, hein, et puis ensuite il va y avoir la Pâque avec l'aspersion du sang autour des linteaux, et finalement, eh bien, la libération du peuple qui va ensuite franchir la mer Rouge, etc. Nous connaissons cette histoire. Donc, c'est vraiment le livre de la rédemption. Même si le livre de l'Exode donne quelques clés pour adorer Dieu, quelques lois, eh bien, c'est dans le livre de Lévitique que se trouve la véritable marche. On peut faire le parallèle entre d'un côté les évangiles et de l'autre les apôtres, les évangiles qui nous annoncent la grâce en Jésus-Christ, et de l'autre côté les épîtres, eh bien, qui nous apprennent comment vivre cette grâce. Et c'est exactement ce qui se passe. D'un côté, le peuple est délivré dans le livre de l'Exode. De l'autre côté, le Seigneur lui apprend, le Dieu lui apprend comment l'adorer. Donc, on se retrouve toujours avec ce parallèle, la grâce, et ensuite, comment vivre la grâce, hein. La libération, et comment vivre cette libération. Et donc, ce parallèle est intéressant. L'auteur du livre, nous le savons, eh bien, est fort probablement Moïse, puisque au moins à 30 reprises, eh bien, l'Éternel va dire à Moïse, eh bien, vient, elle va appeler Moïse et puis va lui communiquer des lois, des préceptes précis. Alors, quelle problématique prendre pour étudier ce livre? On s'aperçoit en le décryptant un petit peu et puis en l'analysant qu'il tourne autour de trois axes. Le premier axe, c'est celui qu'on va étudier ce soir, qui est la sainteté de Dieu. Le second, c'est comment s'approcher de Dieu. Et le troisième, c'est comment demeurer dans la présence de Dieu. Alors, ce soir, on va réfléchir un petit peu sur un thème qui n'est pas forcément très très populaire, puisqu'on va parler de la sainteté. C'est bon, partez pas. On va réfléchir sur la sainteté. Et ce nom, ce mot est vraiment au centre du livre du Lévitique, puisqu'on trouve le mot saint plus de 80 fois. Je les ai comptés. C'est pas vrai. D'autres l'ont fait pour moi. C'est très bien comme ça. Et le mot sainteté, plus de 70 fois. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment la clé, la clé de voûte, le socle qui éclaire le livre du Lévitique. Et pourquoi cette notion de sainteté est aussi présente? On le retrouve autour de la formule qui revient à 7 reprises lorsque Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint ». Soyez saints, car je suis saint. Dieu est saint, et ce qu'il réclame à son peuple, c'est qu'il soit saint. C'est vrai pour les Israélites, et mes frères et sœurs, c'est vrai pour nous. Première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 15, version parole de vie. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » J'aime bien ce petit terme. Dans toute votre conduite. Dans tout ce que vous êtes. Dans votre quotidien, soyez saint. Dans le visible, soyez saint. Dans l'invisible, soyez saint. Voilà. C'est une quête qui doit être la nôtre. Dieu demeure saint. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, Dieu reste et demeure saint. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, la société n'a pas affaibli, la société n'a pas fait changer, et ses commandements n'ont pas bougé dans Yoda. Dieu reste et il demeure saint. Et sa volonté, c'est que son peuple soit saint. C'est que Maïné soit sainte. Elle est déjà de position, mais c'est que je sois saint. C'est que chacun d'entre nous, puissions être saints. Et dans l'Exode 26, il va demander la création du tabernacle afin de pouvoir parler à son peuple. Auparavant, il s'était révélé à Moïse sur le Sinaï, mais là, il va vouloir que le tabernacle soit créé de manière à être au centre de son quotidien. Simplement parce qu'il sait que chaque fois que les Israélites seront susceptibles de se disputer, ils tourneront leur regard, qu'est-ce qu'ils verront? Le tabernacle, la présence de Dieu. Chaque fois qu'un mari et une femme seront sur le point de se disputer, qu'est-ce qu'ils verront? Le tabernacle, la présence de Dieu. Chaque fois que deux chrétiens seront susceptibles d'en venir aux mains, qu'est-ce qu'ils verront? Le tabernacle, la présence de Dieu. Simplement parce que la présence de Dieu au centre de notre vie est le gage pour nous d'une vie sainte, d'une vie droite, d'une vie pure. Quoique nous allons voir un petit peu que le terme de sainteté évoqué dans Lévitique est bien différent de celui que nous pouvons concevoir aujourd'hui. Il veut que nous devenions comme lui. Soyez saints car je suis saint. Est-ce qu'on n'a pas oublié ça? C'est quoi le but de votre vie spirituelle? C'est quoi le but? Vous marchez avec Dieu, ok, mais pourquoi? Pour être de bons chrétiens? Pour être comme Pierre? Pour être comme Paul? Pour être comme moi? Pour être comme ma femme? J'aime bien dire. Non? Le principe d'une vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus. D'avoir ayez les sentiments qui s'agit en Jésus-Christ. Paul écrit aux Éphésiens qu'il est nécessaire pour nous d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le but. C'est pas simplement d'être des chrétiens passables. C'est pas d'être simplement des hommes et des femmes qui respecteront les 10 commandements, qui feront de leur mieux, qui prieront, qui liront leur Bible régulièrement, qui seront fidèles aux réunions. C'est pas ça le principe. Non. Ce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira. Il dira. C'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours afin d'atteindre ce but. D'atteindre le but, de gagner le prix. Paul n'avait pas atteint la perfection, mais il courait vers cette direction-là. Il avait soif d'être comme son maître. Et parfois, on se contente de tellement peu. Alors Dieu nous donne peu. Voilà, je veux simplement être un bon chrétien. C'est pas suffisant, mon frère. C'est pas suffisant, ma sœur. Le principe et la possibilité que Dieu nous donne, c'est que nous puissions être et demeurer comme Jésus. Soyez saints comme je suis saint. Ce que Dieu veut de moi, c'est que je ressemble à son Fils. Et par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en nous, il nous donne la capacité de tendre vers cette perfection. On garde bien ça dans notre cœur, c'est une petite parenthèse. C'est ça le but de ta vie chrétienne. C'est pas autre chose. Dans l'Ancien Testament, il met en place des rites, ce qu'on peut appeler des rites, afin de permettre au peuple d'atteindre cette perfection, cette sainteté. Mais on sait que sous la Nouvelle Alliance, Jésus lui-même va être le Lévitique suprême. Et puis il va nous donner la possibilité de vivre le Lévitique. Alors, la sainteté, c'est quoi? Bien souvent, sous le terme sainteté, d'ailleurs, une des manières de traduire en hébreu, c'est la manière suivante, c'est de dire, c'est être séparé de la souillure et du péché. On est d'accord. Ça fait une notion, une forme de séparation. Mais ce n'est pas que ça, la sainteté. Ce n'est pas qu'un acte négatif, nous le verrons. Ce n'est pas simplement être séparé de certaines choses. Et ça, dans la pensée du Lévitique, ce qui a rapport au culte. C'est-à-dire, ce qui fait notre sainteté, et ce qui faisait la sainteté du peuple, c'est qu'il vouait un culte au Dieu Saint. Ce qui faisait la sainteté du peuple d'Israël, c'est qu'ils adoraient, c'est qu'ils vénéraient, c'est qu'ils plaçaient Dieu au-dessus de toute chose, et que tout leur quotidien était autour de la personne de Jésus. Moult texte, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, « Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint, vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. » Le but que nous avons, le but de notre vie, nous sommes saints à partir du moment où nous offrons des sacrifices au Dieu qui est saint. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, au verset 6, Dieu dira, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce que Dieu veut de son peuple, c'est qu'il lui offre des sacrifices. Je vous renvoie à Romains 12, qui Paul exhorte les Romains à offrir leur corps en sacrifice. Sacrifice saint, vivant. Je vais mettre un vivant parce que ça fait penser un petit peu à l'agneau qui descend de l'autel, vous savez. Parfois on est un peu comme ça, hein. On est des agneaux qui descendent d'autel. Mais c'est là le but. Et notre sainteté, elle est parce que nous servons à Dieu Saint. Elle se trouve dans l'origine de notre foi, dans l'origine de notre adoration. Et pas simplement dans un ascétisme. Pas simplement dans une privation de choses. La sainteté véritable, elle se trouve dans l'origine de notre foi. Et donc, cette origine de foi, cette sainteté, eh bien, elle se matérialise par des choses qui sont concrètes. Quand on lit le livre du Lévitique, on s'aperçoit que, eh bien, dans le livre de l'Exode, puisque les passages que j'ai pris se trouvent dans le livre de l'Exode, eh bien, Dieu va demander aux sacrificateurs de mettre de côté des objets. Des objets qui seront saints, voire très saints. On va prendre plusieurs textes, et puis c'est intéressant de distinguer un petit peu cette notion de saint et cette notion de très saint. Vous l'avez certainement remarqué dans vos lectures fréquentes de ces livres. Exode chapitre 40, verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Il sera saint. D'accord. Le tabernacle était décrété comme saint. Parole de vie, donc une version moderne, dira, en parlant de la dernière périphrase, tu la consacreras de cette façon avec tous ses ustensiles, ensuite elle sera vraiment à moi. Donc, quelque chose aux yeux de Dieu qui est saint, c'est quelque chose qui lui appartient. On est d'accord? Verset suivant, verset 10. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel. On savait que l'autel, seul sacrificateur pouvait s'en approcher. Hein. Et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Version moderne. Tu le consacreras de cette façon pour qu'il soit uniquement réservé à mon service. Donc, on sait que de l'autel, eh bien, seuls les prêtres pouvaient s'en approcher. Hein. Et ce qui était très saint, c'était ce qui était exclusivement réservé aux sacrificateurs. Le peuple ne pouvait pas y avoir accès. Mais j'ai bien aimé cette nuance dans les versions modernes. Ce qui est saint, c'est ce qui appartient, et ce qui est très saint, c'est ce qui sert. Vous saisissez la nuance? Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, et que je me suis posée, est-ce que je suis un chrétien saint? Est-ce que je suis un objet saint ou est-ce que je suis un objet très saint? C'est-à-dire, est-ce que je suis simplement sur les parvis et que, oui, j'appartiens à Jésus, oui, j'appartiens à mon Dieu, il n'y a aucun souci, je suis sauvé par grâce, la foi, etc., le salut pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, je suis d'accord. Mais est-ce que je suis un objet très saint qui est au service de mon Dieu? Et il y a le mot qui est uniquement au service de mon Dieu. Les objets qui étaient, et l'autel notamment, hein, ils ne pouvaient pas eh bien, offrir autre chose, ils ne pouvaient pas servir à autre chose. Petite subtilité, là, qui me paraît importante. Je fais une petite digression. Mais est-ce que nous sommes de ceux, de celles qui nous arrêtons sur les parvis? Comme le peuple le faisait pour offrir un sacrifice? Ou bien est-ce que nous sommes réellement rentrés dans la grâce et que nous avons franchi le voile et que nous sommes rentrés dans le lieu très saint? Et ainsi établit cette relation, cette communion forte avec Dieu. Suis-je saint? Suis-je très saint? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je me veux utile? Et est-ce que je suis entièrement consacré à mon Seigneur et à mon Dieu? Des objets pouvaient mettre à part, être mis à part, des lieux pouvaient être mis à part. Et selon deux principes, un lieu était décrété saint à partir du moment où Dieu y résidait. Souvenez-vous du buisson ardent de Moïse. Buisson banal, comme il y en avait tant et tant dans le désert. Et tout d'un coup, eh bien, ce buisson qui brûle, qui ne se consume pas, eh bien, la voix de Dieu sort et puis appelle Moïse. Puis il dit, attends Moïse, avant de t'approcher, enlève tes sandales, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Moïse aurait pu lui dire, attends, je rigole. J'y suis passé 15 000 fois là-dedans, mais je m'ai demandé ça. Hein. Ah, mais Dieu y était. Dieu y était. Et il fallait que Moïse ait l'attitude de cœur. Je pense que parfois dans nos vies, Dieu est capable de mettre des buissons, des moments saints, des moments où il y a sa présence, des moments où il veut nous parler, des moments où il veut s'adresser à nous. Soyons de ceux, soyons de celles, et bien qui restons sensibles, afin d'être prêts à vivre ces moments d'appel, à vivre ces moments forts avec Dieu. Un lieu pouvait être saint également, bien parce qu'on y rendait un culte à Dieu. Le tabernacle, si on avait cessé d'y rendre un culte, aurait-il conservé sa valeur? Non, il était profondément saint parce qu'on y rendait un culte. L'église est sainte, le bâtiment. Quelque chose de plus. On y rend un culte. Alors il ne s'agit pas non plus de mettre les murs en exergue, de se mettre à vouer une vénération folle aux objets qu'elles contiennent. Non, ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais l'apôtre Paul écrira quand même à Timothée, je t'écris tout ça afin que tu saches comment te conduire, te comporter dans l'Église, qui est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Qu'on le veuille ou non, quand je viens dans la maison du Seigneur, il doit y avoir un état de cœur. Il doit y avoir un état de cœur. On est d'accord? Des temps étaient saints. Dieu va mettre à part des temps et on connaît bien le sabbat, on connaît les fêtes. On va notifier Lévitique chapitre 19, verset 3. Pardon. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Donc on s'aperçoit que le sabbat est au même titre que le commandement. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Et le sabbat est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. De la même manière que la circoncision était le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, hein, le sabbat est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'était quelque chose d'important pour eh bien, Dieu, que son peuple respecte. Et dans Lévitique 23, il y a toutes sortes de fêtes qui sont mises en place par Dieu. Pourquoi? On a déjà posé la question. Pourquoi est-ce que Dieu a instauré des temps comme ça? J'ai trouvé 6 raisons. Bon, je vais le faire vite, je vais le faire courte. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important parce que nous aussi, dans nos vies, eh bien, nous avons des temps à mettre à part pour Dieu. Première raison, c'est parce que c'était des périodes de repos physique, mais également de repos de repos de l'âme. Lévitique chapitre 26, verset 2, gardez le repos du sabbat et montrez du respect pour mon lieu saint, le Seigneur c'est moi. Et au verset 6, grâce à moi, et si vous faites ceci, grâce à moi le pays sera en paix, quand vous vous coucherez, rien ne vous troublera. Alors, il ne faut pas être réducteur. Mais je crois qu'il y a quand même une vérité fondamentale. C'est que quand je respecte mes temps avec Dieu, et quand je respecte le culte, réunion de prière, ou même mes temps personnels, c'est évident que mon cœur est rempli de la présence du Prince de la Paix. Et que je suis en paix. Ou du moins que mes soucis viennent moins facilement se loger dans mon cœur et inquiéter ma vie. Ce qui ne veut pas dire que si nous avons eh bien, des soucis, des tracas, des nuits blanches, c'est parce que nous sommes de mauvais chrétiens. D'accord? Nuançons les choses. Mais simplement, je crois que durant ces moments où nous sommes devant Dieu, nous sommes devant celui qui a dit « Venez à moi, pour tout ce qui a été fatigué, déchargé, je vous donnerai du repos », eh bien, non seulement ce sont des temps de repos physique, mais ce sont également des temps de repos spirituel, de repos pour notre âme, qui nous mettent en sécurité et qui nous gardent, eh bien, dans la paix et dans le Seigneur. Sacrifions pas nos dimanches. Sacrifions pas. On arrivera peut-être à un moment où ce sera possible de travailler le dimanche. Ne sacrifions pas. C'est quelque chose qui est important, il me semble. Bon, c'était une petite parenthèse. Deuxième raison, parce que j'ai promis d'être court, c'est que c'était une belle image de l'égalité de l'homme devant Dieu. Imaginez, le patron et puis l'esclave, patron et l'employé, hein, voilà, ils respectaient tous les deux le sabbat. Et ils honoraient tous les deux Dieu sur un même pied d'égalité. Extraordinaire, ça. Ça vous fait penser à rien, aucun texte dans la Bible. Quand Paul écrit aux Galates, hein, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni maître, etc. L'égalité devant Dieu, l'égalité dans la communion fraternelle, c'est beau l'Église. De voir des hommes de toute race, blancs, jaunes, noirs, des jeunes, des moins jeunes, des beaucoup plus vieux, hein, adorer le Seigneur ensemble et bénir le même Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des riches, des pauvres, ceux qui savent bien parler, ceux qui savent... Peu importe. Un seul cœur, là, qui bénit le Seigneur. Troisième raison, c'était un temps pour apprécier les produits de leurs travaux. C'est un beau de travailler toute la semaine, mais encore faut-il bien être, avoir des temps également pour apprécier ce que nous avons. Les cadeaux que Dieu nous a faits. Alors bien sûr, il y a l'Église, qui est un beau cadeau. Il y a la communion fraternelle, qui est un beau cadeau, mais il y a également la vie de famille. Durant ces temps, eh bien, les Israélites n'avaient pas le droit, hein, de faire aucun travail, rien du tout. C'était même une exception, d'habitude, ils ne pouvaient pas conserver la manne les autres jours de la semaine. Mais là, eh bien, le samedi, ils ont ramassé une double portion, et cette fois, elle ne pourrissait pas. Parce que Dieu voulait qu'ils soient pleinement dans le repos. Et qu'ils puissent, eh bien, jouir, finalement, de tout le travail qu'ils avaient fait durant la semaine. Et qu'ils puissent également, eh bien, se consacrer à lui. Est-ce qu'on sait encore apprécier les choses que Dieu nous donne? Un repas en famille. Un repas avec des amis. Un temps partagé, hein, avec un être proche, un être cher. Un culte. Un temps qu'on partage comme ça. Est-ce qu'on sait encore le faire? Ou alors la société nous a tellement appris à aller vite et à tout jeter, à tout mettre à la poubelle et à passer à l'instant suivant que finalement on oublie à savourer, de savourer ce que Dieu, eh bien, nous a donné, de ce que Dieu nous a accordé. Il y a des choses qui sont toutes bêtes, toutes simples, mais qui pourtant, eh bien, va être bien plus que l'or et l'argent. Bien plus que l'or et l'argent. Quatrième raison, c'est pour avoir la communion avec leurs voisins. Lors des fêtes, hein, lors des fêtes que Dieu avait instaurées, il y a une belle image qu'on trouve dans les psaumes, avec notamment les psaumes des degrés. Les psaumes des degrés, vous les retrouverez je vais pas vous les citer, mais c'était des psaumes que le peuple chantait lorsqu'il montait au temple. Et à chaque étape de la marche, ils chantaient un psaume différent. Et c'est tout le peuple qui chantait ça. Vous imaginez? C'était la fête. C'était un temps de communion fort. C'était la joie. Ils montaient au temple. Ils allaient adorer tous ensemble. Et puis là, on pouvait imaginer que les voisins se rencontraient, qu'ils parlaient, qu'ils échangeaient, etc. C'est une belle image de la communion fraternelle. Très belle image de la communion fraternelle. Cinquième raison, c'est que ces fêtes étaient des périodes pour se réjouir de ce que Dieu leur avait donné. Dans le point qui archi précédait, hein, c'était de se réjouir, de profiter d'eux. Mais là, il s'agit de se réjouir de ce que Dieu leur avait donné. Donc, dans le point précédent, c'était c'est à nous que ça fait du bien. Mais là, eh bien, c'est les temps où, et finalement, on réjouit Dieu au travers de notre adoration, où on prend conscience des choses. Puis, sixième chose, c'était les temps où on se rappelait de ce que Dieu avait fait. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Mais ils se rappelaient de ce que Dieu avait fait. Il dit, tu te souviens quand la mer Rouge s'est ouverte, on a bien cru que les Égyptiens, on allait y passer. Hein. Mais non, la mer Rouge s'est ouverte, c'est extraordinaire, c'était fabuleux. Ah, tu te souviens des plaies, c'est laquelle qui t'a le plus impressionné? Oh, c'est les grenouilles. Ah non, c'est l'eau qui s'est changée en sang, etc. Ah, t'imagines si on n'avait pas badigeonné notre Nolento avec le sang, qu'est-ce qu'on... Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que notre Dieu est grand. Qu'est-ce que notre Dieu est puissant quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le désert, mais regarde, on a la manne qui arrive et tout. Parfois on en a un peu marre, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Dans la scène, on se rappelle, on commémore. Tout d'un coup, une prière d'un frère, d'une sœur, qui nous parle et on se dit, ouais, une louange, ça me parle bien, ça me rappelle quelque chose. Un don spirituel qui ranime quelque chose en nous. En disant, ouais, c'est pour moi, c'est vrai. J'ai besoin de ça. Un attouchement divin, une visitation de l'Esprit de Dieu, qui nous ramène des années auparavant, des choses qu'on avait un peu oubliées, peu importe. Mais c'est un temps pour se souvenir. Pour se souvenir que nous sommes hommes et que notre Dieu est Dieu, mais que nous sommes également ses amis, qu'il ne nous a pas appelés serviteurs, mais qu'il nous a appelés amis. Donc, cette sainteté, elle se matérialise par une forme de consécration. Et ce que j'aime, c'est que trop souvent, on voit la sainteté comme un acte négatif. Touche pas à ci, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas ça, mets pas ci, mets pas ça, hein, va pas, regarde pas ça, regarde pas ci. Non. C'est vrai ou pas? C'est comme ça qu'on considère la sainteté. Mais dans le livre du Lévitique, on s'aperçoit que la sainteté, elle n'est pas composée d'actions négatives, mais elle est composée d'actions positives. La sainteté, elle est constructive. Elle construit, elle bâtit. Elle n'érige pas une somme d'interdits, mais elle bâtit un lien entre Dieu et nous. Parce que notre culte lui est dédié. Notre vie lui est dédiée. Parce que nous sommes les sacrifices, les offrandes qui sont sur l'autel. La sainteté n'est pas l'impureté. Vous m'accordez 20 minutes de plus? Non, 5 minutes de plus, allez, je vais essayer de faire court. Être saint, c'est positif, mais ce qui n'exclut pas, eh bien, comme on l'a vu, de se garder de l'impureté. Pour autant, la sainteté que Dieu exige n'a rien à voir avec celle des païens. Elle doit s'exercer dans un cadre qui honore Dieu. Il faut savoir que les païens aussi avaient utilisé ce mot saint du temps des Israélites. C'est étonnant, mais un prêtre cananéen qui offrait, qui faisait passer, eh bien, un enfant par le feu, eh bien, se décrétait saint. Parce qu'il accomplissait ce même acte de sainteté vis-à-vis de son Dieu. Alors, on ne peut pas en rester là non plus. On ne peut pas se dire on est saint uniquement parce qu'on établit une relation avec un Dieu. Non, on établit une relation avec notre Dieu, avec le seul Dieu, véritable et unique. Mais cette relation, elle doit être entachée d'une conduite, hein, d'une attitude. Ça vous paraît normal, mais là, on ne parle plus de sainteté, on parle de pureté. Il faut distinguer les deux. Quelles peuvent être les causes de l'impureté? Alors, il y avait au moins 20 possibilités d'aborder les choses. J'en ai choisi une en espérant qu'elle soit la bonne. Je n'ai plus que 6 points à aborder. Premièrement, l'impureté, c'est quelque chose qui se communique. Lorsque un homme était lépreux, il était mis en marge du camp. Lorsque quelqu'un saignait, il était mis en marge du camp. Lorsque quelqu'un touchait un cadavre, il était considéré comme impur. Et nous verrons dans les temps futurs quel était le procédé afin de redevenir pur. Ça vous emballe. Donc, on s'aperçoit que, si vous voulez, cette impureté est contagieuse, donc une séparation est nécessaire. Il n'y a rien de nouveau, regardez sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance. Qu'est-ce que dit Jésus? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien retranche-le. Parce qu'il vaut mieux que tu rentres borgne dans le royaume des cieux plutôt que de ne pas y rentrer. Donc, quelque part, la cohérence entre l'ancienne et la nouvelle. Et parfois, oui, la sainteté et l'amour que la recherche de la pureté, eh bien, nous obligera à couper, casser, à faire des coupures. C'est certain. On y passera tous, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, ça c'était évident. Mais l'impureté chasse la présence de Dieu. Vous savez, quand dans notre vie il y a un péché, c'est moins facile de prier. J'aime beaucoup cette formule de Bunan qui dira que soit la prière t'éloignera du péché, soit le péché t'éloignera de la prière. Et je crois que c'est lui également qui a dit que le péché coupait les ailes de la foi. Quand il n'y a rien en moi qui est flou, ma prière, on a l'impression qu'elle déplace toutes les montagnes, conformément au texte de l'Évangile. On a l'impression que quand on prie, Dieu ne peut faire qu'une seule chose, c'est nous exaucer. Par contre, quand dans nos vies, il y a un péché, quelque chose qui est caché, une tâche, ben de manière automatique, ce n'est pas que Dieu nous aime moins, parce que Dieu nous aime tout court. Mais nous, on a plus de mal de se projeter. Et il y a beaucoup moins de conviction, il y a beaucoup moins de force dans notre relation avec lui. Alors, j'avais prévu de réfléchir avec vous sur Lévitique 11. On le fera la prochaine fois. Je développerai un petit peu, puis on le fera la prochaine fois. Pour réfléchir un petit peu sur cette notion d'impureté, sur les animaux impurs, vous pouvez le lire, comme ça vous aura un petit peu d'avance. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut garder dans notre cœur? N'oublions jamais. Je pense que la sainteté, c'est quelque chose qui construit. C'est pas quelque chose qui détruit. Trop souvent, on a érigé la sainteté comme quelque chose qui avait vocation à établir une relation, ou du moins qui se construisait à partir des actes. Non, du tout. La sainteté, c'est la relation qui m'unit à mon Dieu. Uniquement et simplement. Et plus je serai proche de mon Dieu, et plus cette sainteté m'environnera. La pureté, elle viendra par l'action du Saint-Esprit en moi. À partir du moment où je lui confesse les choses, où je me laisse convaincre de péché, de justice, de jugement, eh bien, il y aura moins de traces dans ma vie. Et je ressemblerai de plus en plus, eh bien, à mon maître. C'est ça, c'est le troisième point que j'aimerais souligner. N'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que le but de ta vie chrétienne, c'est pas simplement d'être un bon chrétien, mais c'est de ressembler à Jésus. C'est de ressembler à Jésus. Il travaille, hein. Mais le Dieu qui vit en nous, il est puissant, hein, et il est capable de le faire. Moi, je le crois. Il nous changera, il nous façonnera, hein, et il nous rendra, eh bien, un petit peu plus chaque jour comme lui, et chaque jour lui sert, afin d'accomplir cette tâche ô combien importante. Que le Seigneur nous aide, nous fasse du bien, et nous permette très bien d'avancer, eh bien, dans cette vie, et dans cette sainteté véritable et authentique.